Il y a Jean-Michel Coqui, Anne Kobila, Corinne Amar, Élodie Royer, Vincent Lecomte. Vous écoutez France Culture dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.
Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Il y a d'abord une plume tenue, rythmée et élégante, croisée pendant longtemps dans les pages du Monde et toujours dans ses livres. La plume de Francis Marmande, au diapason, tout en swing et paradoxe dans ses articles critiques sur le jazz et ses acteurs. Marmande, spécialiste de Georges Bataille, de Michel Léris, côtoyant Miles Davis, Michel Portal, entre autres. Marmande qui s'autorise les ponts redoutés par d'autres entre les genres et les cases, écrivant sur la tauromachie et les fêtes de Bayonne, comme sur le bleu du ciel de Bataille ou sur Céline. « Je connais le problème », dit-il avant même que l'on avance un bémol. Il y a ensuite le hasard, sa voix croisée ailleurs, qui parle d'improvisation. L'improvisation, si souvent évoquée et illustrée dans l'atelier du son par d'autres qui la pratiquent à foison. En voilà un qui en parle, et sans note préalable. Thomas Baumgartner a proposé à Francis Marmande de quitter cet ailleurs pour rester chez lui, où on vient à sa rencontre pour parler donc improvisation. Le sujet est traité à domicile, après une introduction sur le trottoir.
On commence par une confrontation. Il y a deux comportements face au son, l'accepter ou le modifier. Hugues Le Bars, disparu le 1er novembre, ne parlait pas de modification du son, mais d'ordonnancement du son. Le compositeur aimait utiliser les sons réels, qu'on appelle parfois sons concrets, et les intégrer dans sa musique, voire en faire littéralement de la musique. Il disait que le klaxon, entendu dans la rue, ne tombait jamais au bon moment, et qu'il avait toujours l'envie de le recaler, de recaler les sons ambiants, de les composer. C'est à ces réflexes d'oreille qu'on constate une vocation, qu'on constate le fameux « bon qu'à ça ». On ne sait pas si Hugues Le Bars n'était bon qu'à ça, mais il était très bon à ça. Une musique illustrée, faite de bruits vrais et de vagues, d'ondes, sur lesquelles on posait volontiers sa voix. Car la musique d'Hugues Le Bars a beaucoup servi d'indicatif de radio. Provenant de l'extérieur, elle y retournait par le biais des ondes et se mariait avec les voix de la radio comme avec l'environnement sonore des gens qui les écoutaient. Voilà donc pour la première attitude, l'ordonnancement. Et puis, il y a donc l'acceptation ou la contemplation. Ils sont quelques-uns à savoir bien faire ça, phonographie, paysage sonore, captation du réel. Marc Namblard, audio-naturaliste, en fait partie. Il est le co-auteur d'un livre-disque, qu'on peut aussi appeler finalement « beau livre-disque ». Ça s'appelle « La nuit du cerf » et ça rassemble des photos de Vincent Munier, des photos assez fantastiques, comme on le dit d'une certaine littérature, où le cerf apparaît, disparaît, dans la brume, dans la nuit, où les fans surgissent du paysage en bande et n'ont plus peur de rien. Le cerf se fond dans la forêt, le bois, ses bois, parfois seul son œil surgit comme une bille dans la nuit. La série est étonnante de sensibilité, comme le son, les sons, captés par Marc Namblard, célèbre pour ses pièges à sons qu'il place dans la forêt. L'écrivain et naturaliste Yves Pacalet signe la préface du livre et relie le son, le souffle, le brame du cerf et les vibrations qui émanent des photos de Vincent Munier. La nuit du cerf, c'est donc paru aux éditions Cobalan, un livre de contemplation en images et en sons. Mais dans la contemplation, il y a forcément des auteurs, il y a des sensibilités, il y a un cadre pour l'image ou pour le son. C'est là que se rejoignent ces deux approches, tout aussi défendables, ordonnancement et acceptation, composition et contemplation, deux approches du monde pour mieux le cerner, pour mieux en avoir conscience. On reparlera d'Hugues Le Bars un peu plus longuement dans une émission prochaine. Pour le moment, Nous sommes loin de la forêt des Vosges et du Brame du Cerf. Nous sommes dans le quartier de Belleville à Paris. Et nous avons rendez-vous avec Francis Marmande, écrivain, critique, musicien, un nom du jazz en quelque sorte, connu notamment pour ses écrits sur le jazz. Bonsoir à vous et bienvenue dans l'atelier du son qui commence.
Bonjour.
Je suis désolé, et la sonnette ne marchait pas, elle a marché tout à l'heure, mais voilà.
Bonjour.
J'avais oublié de vous dire que c'était jour de marché à Belleville. Merveilleux. Et pour les bagnoles, pas trop.
Ah oui. Ouais. Oui, mais pour les paniers à provision.
Vous enregistrez là déjà, oui, bien sûr, oui. Ça n'arrête pas.
C'est bien, c'est une bonne idée de le faire à domicile.
On va voir.
Test.
Où suis-je ? Mon micro.
Là.
Il est là.
De la contrebasse toute seule, s'il vous plaît.
Par contre, j'ai pas le son.
Bonsoir, Francis Marmande.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir chez vous. On est chez vous, on est à domicile. Vous recevez souvent des gens qui viennent vous rencontrer, qui viennent chercher votre parole.
Bon, d'abord, il n'y en a pas tant que ça, mais ensuite, oui, souvent, oui. Oui.
Et Jacques Birocal qui est autour de la table aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui. Vous n'hésitez pas à intervenir, vous avez dit avant qu'on enregistre que vous n'aviez pas grand-chose à dire. Mais on va vous entendre jouer tout à l'heure.
Oui.
Merci beaucoup pour ça.
Merci.
N'hésitez pas à intervenir, je vous poserai peut-être quelques questions.
Merci à vous.
En cours de conversation. Vous connaissez depuis combien de temps Jacques Birocal, Francis Marmande ?
1974.
Ah oui, par là, oui.
Après, il y a eu Opération Rhino en 76.
Oh là, oui.
Enfin, depuis un certain temps. Mm-hmm.
Oui. Oui.
Et la nuit est au courant ?
Alors là, c'est une réunion avec Francis, c'est une rencontre avec Francis et Jacques Tolot. Mm-hmm. Et Hubertus Biermann, c'est une réunion, je crois, qu'on s'est rencontrés. On a mis ça sur pied en 88, on va dire. Oui. La nuit au téléphone, c'est pour ça que ça s'appelle la nuit au courant, parce qu'on s'est appelé la nuit à 3-4 heures du matin pour dire il y a peut-être une chose à faire avec, avec l'ingénieur du son qu'on a réveillé à 5 heures du matin. Tout le monde était réveillé, tout le monde a dit oui, alors quand est-ce qu'on commence?
Non, c'est-à-dire que tu réveillais tout le monde.
C'est moi qui ai réveillé tout le monde.
Bah, comme il n'y avait pas de portable, à l'époque, le téléphone sonnait au milieu de la maison. Ouais. Réveillant tout l'immeuble au passage, et il était 3h30 du matin, donc je pensais que mon père était mort, enfin un truc comme ça.
Tout le monde a pensé que...
Et c'était Jacques qui disait, j'ai une idée, on va faire un album.
Oui, dans ces cas-là, il vaut mieux dire oui pour
dans la même nuit. Dans la même nuit, j'ai pu avoir tout le monde au téléphone jusqu'à l'ingénieur du son. Et voilà, donc c'est...
Mais ce qui complique la donne, c'est qu'à 3h30, me réveillant et me soulageant, c'est pas une mauvaise nouvelle finalement, mais la première question de Jacques a été est-ce que tu joues encore, Francis? Parce que la dernière fois qu'on a joué, c'était formidable. J'ai une mémoire névrotique des dates, et je dis c'est bien gentil, mais la dernière fois c'était il y a 11 ans, donc le temps est passé, puis moi je suis pas musicien, donc ça complique un peu la donne, enfin voilà.
Vous êtes universitaire, vous êtes écrivain, vous êtes auteur d'écrits aussi sur le jazz. Alors, vous n'aimez pas, je crois, le mot de critique de jazz. Mais c'est vrai que quand on lit ce que vous avez écrit sur le jazz, justement, il y a la question de qu'est-ce que c'est, quoi.
Et bien sûr.
Et,
oui.
À la limite, j'ai l'impression que si vous pouviez vous passer de ce mot-là, ça élargirait volontiers le champ.
Parfois, j'y mets des guillemets. Ouais. Parfois, je l'écris DJAZ pour renforcer la prononciation. Française, mais c'est vrai que c'est un mot qui est à la fois délicieux. Moi, je suis assez abruti pour avoir acheté une autre toilette qui s'appelait jazz en son temps, un réveil parce qu'il s'appelait jazz. Enfin, vous voyez, ça va assez loin, le signifiant. Et puis, en même temps, dans le milieu des musiciens que j'ai connus, c'est toujours un mot à employer avec des pincettes. Et ceux que j'ai connus de près, comme Jacques Berrocal, évidemment, ou Archie Shepp, ou Michel Portal, ou Miles Davis. Enfin, je cite des grands noms, mais c'est vrai, je pense à la longue que j'ai toujours cru faire ce métier de critique de jazz par hasard. Puis non, c'était pour m'approcher sans doute de la pratique et du discours aussi des musiciens. Les musiciens ont une vraie belle parole. Et le mot de jazz, on le sait pour Charlie Parker, il est encombrant. Il est encombrant parce qu'il n'est pas encombrant en raison de ce que le jazz recoupe et recouvre comme réalité esthétique, politique, sociale, religieuse, j'en sais rien. Mais il est encombrant parce que quand les gens ne connaissent rien au jazz, c'est pas un drame, mais ils en connaissent trop.
Il y a des images d'Épinal quoi, qui viennent tout de suite.
Tout de suite, c'est les clichés, évidemment. Mmh. C'est le savoir, quand il est un non-savoir, il est idéologique. Permettez-moi de faire des phrases. Non, mais c'est vrai. C'est immédiatement, on tombe sur la stupidité où cette dame en vison qui, le 24 décembre, s'est pointée dans le plus grand magasin de disques de l'époque, quand il y avait des vrais magasins de disques, à Lido Musique. J'avais un copain qui tenait le rayon musique, Daniel Richard, qui était une encyclopédie vivante. Mmh. Les musiciens, que Mingus, que Mick Jagger, que venez voir pour savoir où en était leur disque dans le monde entier. Et cette dame qui était en retard d'un cadeau, comme il arrive, sur les Champs-Élysées, s'est adressée à lui et lui a dit, et au fur et à mesure qu'elle disait sa phrase, je pensais qu'il allait la couper en rondelles. La dame lui a dit, monsieur, je voudrais un disque de jazz qui ne fasse pas trop jazz, parce que c'est pour offrir à quelqu'un qui n'aime pas le jazz. C'est formidable. En plus, on peut faire la liste, c'est vrai, de ces disques-là. Mais c'est là que le mot devient
encombrant.
Encombrant.
Ouais. Alors, l'idée de point de départ de cette rencontre de ce soir, c'est une forme de causerie que je vous ai voulu faire dans une librairie. Alors là, c'était une forme de solo. Alors, c'était pas instrumental, mais il s'agissait de parler de l'improvisation. Et j'ai l'impression que c'était même parler de l'improvisation en improvisant, c'est un exercice auquel vous vous prêtez souvent, volontiers?
Non, enfin, en tout cas, c'est pas un numéro de cirque, j'espère, mais c'est... Puisque c'était des gens d'origine philosophes, sérieux, et puis à la fois très ouverts, qui m'avaient invité à parler sur l'improvisation, je m'étais dit que j'allais jouer le jeu. C'était pas arriver avec les 15 pages de colloque redoutables que je crains d'être capable de faire en plus. Hein. Enfin, c'est bon. Donc, effectivement, vous êtes devant 50, vous étiez là, ouais. 50, 60 personnes, ouais. que vous ne connaissez pas toutes loin de là. C'est un samedi matin. Vous dites que la plupart des gens ont mieux à faire que ça. Et si vous vous lancez dans une sorte d'improvisation orale, c'est vrai que j'aime bien raconter des histoires, c'est vrai que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas si bien que ça non plus. Ça, c'est vraiment le risque. Et vous vous lancez, et ça ressemble, oui, à un chorus, ça ressemble à une espèce de discours incontrôlé qui en même temps passe par des harmonies, quoi, par des points de repère. Mais ça, c'est dans l'improvisation à la fois canonique ou bebop ou free jazz, c'est toujours...
Il y a des grilles.
Il y a des grilles. Mmh. Et quand il n'y en a pas, il y en a aussi. Mmh. Joël Léandre dit que l'improvisation est toujours compositionnelle. Mmh. Mais on a beaucoup déliré en France en 1965 lorsque le disque de Ornette Coleman en double quartet avec Eric Dolphy est sorti, free jazz.
Qui avait été enregistré en 60.
Qui avait été enregistré en 60. Et il y a des critiques de musiciens que j'aime en plus dans Jazz Magazine de l'année de la sortie. Mais si on ressort ça, mais les types sont morts. Et des musiciens de respect. Hein. Et on a beaucoup déliré parce que ça paraissait une espèce de foisonnement indiscernable. Quelque chose qui était comme un magma. Mm-hmm. Bon. Quand la version de 1960 est ressortie, la version complète de free jazz, double quartet, donc deux trompettes, deux sax, deux basses et deux batteries, quand la version 1960 qui avait donné lieu à l'album français de 65 est sortie, c'est sorti en double album, il y avait une autre version. La version que je connaissais, qu'on connaissait, était de 47 minutes 26 secondes. L'autre version était de 17 minutes. Eh bien, l'autre version était exactement homothétique de celle qui a été diffusée. C'est-à-dire que tout en ayant l'air, et réellement il l'était, d'être dans ce que Ornette Coleman appelle l'harmolodie, cette espèce de polyphonie collective où chacun prévoit l'autre et joue avec. Ça suppose une intimité extraordinaire. Enfin, c'est d'inconscient à inconscient, ou alors c'est n'importe quoi, et c'est pas non plus le but du jeu, mais ça peut arriver. Mm-hmm. Mais la version de 17 minutes, vous reconnaissez comme une miniature de la version de 47. Donc, alors là, les commentateurs de 65, je peux vous dire, ils sont pas bien. Cela dit, quand ma sœur cadette, très très attentionnée à ma demande et à sa suggestion, est allée acheter le disque à Bayonne, moi j'étais à Paris, ma ville natale, sa ville, elle a acheté le disque, Bayonne, donc 800 km, 10 heures de train à l'époque. Et avant de faire le paquet cadeau, on n'avait pas exactement les mêmes goûts, mais ce n'était pas la question, elle a voulu écouter le disque pour attendre les fêtes de Noël. Et elle a écouté le disque, elle s'est dit, elle n'est pas bête, hein, mais elle s'est dit, ce disque a un défaut, qui ne va pas. Elle l'a ramené chez le marchand, Monsieur Noué, qui avait un magasin qui vendait des machines à laver, des fers à repasser, et 8 disques de jazz. Et elle l'a ramené, Madame Noué était à la caisse, et il y avait Monsieur Noué qui était en blouse blanche parce qu'il avait l'air d'un ingénieur, et les employés étaient en blouse grise. Et ma jeune sœur dit, voilà, je vous ai commandé ce disque, vous l'avez fait venir, et bah, je crois qu'il est rayé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Monsieur Noué, vexé dans son orgueil de commerçant, place le disque sur la platine, un 33 tours donc, et la musique commence à surgir. Il y a une atmosphère de consternation. Nous sommes en 1965, au mois de décembre, à Bayonne, en bas à gauche, sur la carte. Et M. Noué prend une lampe de poche et, par lumière rasante, dit non, ce disque est normal. Double consternation. Et M. Noué, philosophe, dit, c'est comme ça. Et Madame Noué, les employés prêts à se suicider, et Madame Noué à la caisse dit oui, c'est de plus en plus comme ça. Quelques années avant, j'avais un copain qui s'appelait Jacques Accarelli, qui était une merveille de voyou, qui faisait connerie sur connerie. Au lycée de Bayonne, il avait choisi le rôle du mauvais élève, et moi j'avais tiré celui du bon élève. Et la mère d'Accarelli m'impressionnait beaucoup, parce qu'elle tenait une petite boutique au bout de la rue Bourgneuf, qui faisait bouquiniste, essentiellement des polars, et pas mal de disques d'occasion, que lui échanger, rapporter les amateurs de la ville à ce moment-là en jazz, c'était à 98% les médecins et les pharmaciens, ceux-ci étant méprisés par cela. Et un jour, Madame Accarelli, son fils n'étant pas là, me dit « Écoutez, prenez soin de Jacques, parce qu'il me donne beaucoup de soucis, elle était veuve. » Et fait n'importe quoi, vous êtes bon élève. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Jacques Accarelli m'apprenait des tours pendables, que moi, je ne lui apprenais rien, évidemment. Et elle me dit, j'oublierai jamais le regard là qu'elle a eu, elle prend un 25 cm qu'elle avait derrière elle. Elle me dit d'ailleurs, j'ai un album ici, personne n'en veut, ni à Bayonne, ni à Biarritz. Je l'avais vendu à un docteur, il est revenu, il voulait casser le magasin. Il me l'a rendu, il l'a jeté, enfin bon, je l'ai revendu à un pharmacien qui est revenu horrifié, il ne me parle plus depuis, et c'est un cauchemar. Et je vous le donne pour que vous preniez soin de Jacques. Et elle me donne cet album qui s'appelle Improvisations.
Que vous avez là?
Pour piano, basse et batterie, un 25 cm, avec Charles Mingus, Art Blackie, Paul Blé. Je connaissais tous les noms. Mm-hmm. J'avais un savoir, j'étais un bon élève jusqu'au bout, un savoir livresque. Ah ouais. J'avais tout appris.
Dans les guides, dans les manuels?
Dans les quelques livres, le Marabout Flash, le petit livre d'André Francis, le Que sais-je de Lucien Malson qui existait à l'époque. Oui. Deux ou trois livres avec trois photos, les pochettes de disques, mais j'avais très peu de disques. La télévision n'existait pas. Hein, mm-hmm. Le relais n'était pas installé. Enfin, voilà, et elle me donne ça avec cette espèce de phrase qui me poursuit encore, parce que c'est 60 ans après cette affaire-là. Et elle me dit, il n'y a que vous qui puissiez aimer ça. C'est le premier disque de Paul Blé à New York. Paul Blé est un pianiste canadien. Blanc, je le signale parce que ça joue un rôle. Il débarque à New York en 1950 et le premier album qu'il fait, la rythmique qui se propose, c'est Charles Mingus et Art Blackie. Tu vois le. Voilà. Et c'est un disque où il y a son titre improvisation est justifié par des titres qui s'appellent Spontaneous Combustion ou Opus, parce que c'est même pas Opus One, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de titre, quoi.
Racontez-la, Francis Marmande, la manière que vous allez le raconter, on voit qu'il y a aussi une conscience, alors je ne sais pas si elle est au moment où cette dame vous donne ce disque-là, si vous l'avez, mais quand vous parlez des médecins et des pharmaciens qui défendent une certaine forme de jazz, est-ce qu'il y a une manière politique, on va dire, de lire ça, de parler de cette musique-là? Qui plus est à Bayonne à ce moment-là, comme vous le racontez.
Bah, il me semblait que l'essence du jazz, mais sans assombrir cette soirée, l'essence du jazz, c'était d'être de nature politique, sans employer le mot. Je veux dire, pour moi, les nègres d'Amérique, j'étais très au courant. Little Rock, en 1956, où 9 élèves du lycée de Little Rock, conformément à la loi, on n'allait pas au droit civique. Ce qui se réclame aux États-Unis d'Amérique à ce moment-là, en pleine apartheid, ce n'est pas l'égalité, comme disent les nigos aujourd'hui, ou la liberté, ou je ne sais quoi. Non, c'est les droits civiques, c'est le droit d'être un citoyen. C'est très différent tout de même. Donc Little Rock, 9 élèves d'origine afro-américaine, entre le premier jour de la rentrée, et ils sont refoulés, et le sénateur Phobus, qui quand même un abruti de première catégorie, mais enfin il avait été élu sénateur par des abrutis de première catégorie, fait donner la garde nationale pour scandale planétaire. Moi je m'en souviens, 56, j'ai 11 ans. Et les pages de France Soir, enfin n'importe quoi. Tout était bon pour moi. Et pour moi, ça parlait de jazz. Et j'ai une phrase qui est indéfendable du point de vue de la physique classique, mais du point de vue de la physique quantique, elle marche assez bien, c'est « j'ai aimé le jazz avant que de le connaître ». Mais au cirque, ce que je regardais, par exemple, c'était les musiciens, parce qu'il y avait l'orchestre. Et le contrebassiste, qui faisait en plus des tourniquets avec sa contrebasse, enfin, parce qu'on était au cirque, m'impressionnait énormément. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est cet instrument intransportable, éléphantesque, et qui a l'air d'une telle grâce. Voilà. Et derrière l'orchestre de cirque, parce que de temps en temps, ça devait swingoter un peu comme ça, j'entendais l'hypothèse du jazz. Il y a l'orchestre de la plage aussi. Mais c'était Pierre Louis, le père d'Eddie Louis, donc ça devait swinguer un peu tout de même. Donc j'entendais ça. Mais il y avait les premiers 45 tours, mes parents avaient 20 ans de plus que moi, ce qui n'est pas énorme. Donc avec leurs amis, ils écoutaient les premiers disques de Gilbert Bécaud, écrits par
Pierre Charles.
Non, pour les paroles, oui. Mais les musiques, c'était Aznavour. Et il y a des chansons qui sont formidables. Mais je sais très bien que sur France Culture, 21 novembre, l'intellectuel qui dit que les premières chansons de Gilbert Bécaud étaient formidables, ça va se retourner contre moi. Mais c'était le cas. C'était le cas.
Et
en tout cas,
et un jour, il y a Brassens qui arrive à la maison.
Et aussi. Alors un jour, il y a Brassens, parce que Brassens vient assurer la première partie du gala du journal Sud-Ouest, 1953. Mais il faut imaginer aussi que Bayonne n'est pas exactement au diapason de Paris dynamique, actif. Mes parents étaient très marrants. Et ils vont à ce gala, première partie, un type moustachu, personne ne connaît. La moitié de la salle, de la ville est très imprégnée par la religion. Et mon père est président de l'amicale laïque, et le petit marchand de vin. Et mes parents tombent d'un arrêt devant Georges Brassens. Mais en plus, ils ont eu l'astuce très vite d'acheter les albums un par un, les premiers c'était des 25 cm aussi, et de les planquer sous l'encyclopédie Larousse.
Ah ben ça, il n'y a pas meilleur moyen pour que les enfants écoutent.
Pensez, pour qu'on ne les entendît point à cause des gros mots, et personne n'est en dupe de rien, le mercredi soir, ils allaient au cinéma, et là on dégainait les Brassens avec mes sœurs, et on les écoutait, mais on les écoutait avec le sentiment de mots suremployés aujourd'hui, mais d'urgence. Donc, on les apprenait par cœur pour attendre la semaine prochaine.
Vous avez une théorie selon laquelle Brassens a fait baisser la voix des hommes en France d'un ton.
Ah oui, vous vous êtes renseigné. Bah oui, vous prenez les voix d'avant-guerre, y compris... ça n'a aucune... vous avez bien compris que ce n'était pas un jugement moral ou...
Ah oui, ils n'ont pas baissé d'un ton dans le sens...
Brassens apparaît aussi... Alors, Brassens apparaît d'abord... comme un personnage. On a beaucoup dégoisé sur Brassens poète, Brassens, c'est vrai, c'est écrit, mais admirablement. Mais enfin, en même temps, les poètes contemporains de Brassens, c'est René Char, Francis Ponge, Saint-John Perse. Enfin, ça peut faire rire des universitaires, ça les a fait rire un temps, d'ailleurs. Mais Brassens mélodiste, Brassens harmonique, vous ne trouverez pas un musicien d'avant-garde ou de pas avant-garde qui ne trouve pas sa majestueuse. Formidable. Et Brassens, la frappe de Brassens à la guitare, ça on le voit sur les images, on voyait en scène, mais c'est d'une intensité étourdissante. Le rajout de ce bon personnage moustachu, lui aussi Pierre Nicolas, le contrebassiste qui assurait derrière, et puis la modestie de Brassens, disant bien sûr, je savais qui étaient les bons musiciens, les grands musiciens. Moi, je n'ai pas la prétention de regarder du côté de Django Reinhardt, mais Henri Crolla, oui, plutôt. Mais c'était une authentique modestie. Voilà. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il savait exactement dans quel registre il était, à quel niveau il était, mais dans ce registre et ce niveau, il voulait la perfection. C'était réellement... Et du coup, je me disais, ben voilà, derrière Brassens, il y a Henri Crolla. Derrière Henri Crolla, il doit bien y avoir quelqu'un. Mm-hmm. Et on va finir par arriver un jour à West Montgomery ou à Charlie Christian. Mm-hmm. C'est en remontant, quoi. Mm-hmm. C'est une espèce d'archéologie
généalogie,
bizarre et un peu naïve, mais efficace.
Jacques Béroquel, vous avez joué avec Pierre Nicolas?
Oui.
Sur son seul disque,
c'est ça? Non. C'est sur un disque, je crois qu'il n'est jamais sorti. C'est le disque d'un chanteur dont j'ai oublié le nom. Mais j'ai passé
ça, j'aime beaucoup Jacques Béroquel. C'est le disque d'un chanteur dont j'ai oublié le nom et qui n'est jamais sorti.
Et qui n'est jamais sorti, c'était chez Poulidor, je me souviens encore du studio. Et je me souviens des trois jours qu'on a passé avec Pierre Nicolas. Je crois qu'il y avait trois ou quatre titres. On enregistrait, parce qu'à l'époque, les 45 tours faisaient quatre titres. C'est les années 70, mais il y avait encore on faisait encore des 45 tours avec quatre chansons, trois ou quatre chansons, et pas deux titres. Et donc, moi, j'ai passé des jours merveilleux avec Pierre. Parce que j'ai continué à apprendre la musique, ce que je fais toujours avec Francis ou avec d'autres amis. Et en même temps, j'avais toutes les anecdotes chaque fois qu'on allait descendre à une pause, et Dieu sait si on faisait des pauses, pour aller au café en bas, parler de ce qu'on allait faire avec le chanteur, mais surtout parler d'autres choses. Et c'est-à-dire toutes les anecdotes des tournées avec Brassens et Bobby Lapointe, et là j'en ai appris, et les studios, et les séances de studio avec d'autres musiciens que l'on connaît, comme Michel Portal et d'autres. Et donc j'ai appris plein de choses, et c'était ça a été un émerveillement de jouer avec Pierre, parce que il y a des moments dans le studio où je me trompais, et il me dit, mais Jacques, c'est rien, moi ça fait 50 fois que je me trompe, ça fait que 3 fois, on va continuer, on a le temps. Et en fait, j'ai appris beaucoup, et puis surtout de cette aussi générosité. très important. Générosité.
C'est-à-dire générosité dans l'échange.
Ce sont des gens qui vous aident. Quoi. Les gens généreux sont des gens qui vous font du bien. Mm-hmm. Et des gens qui le sentent. Si vous avez un moment de panique, je sais pas, sans s'exprimer, vous voyez bien que ça ne va pas très fort. Vous n'êtes pas au bon niveau, je ne sais pas quoi. Et ils sont là pour... Ils vous aident.
Mais
et Pierre a été merveilleux pour ça. Quoi.
Une modestie de ces musiciens. Parce que les musiciens de studio ou de variété... Ouais. C'était par essence les meilleurs. Que puisque les chanteurs vendent plus que les musiciens, entre guillemets, de jazz, s'ils s'adressent à des musiciens, ils ne vont pas prendre les mauvais. Mais Pierre Nicolas savait très bien que son contemporain, Pierre Michelot, était un virtuose par rapport à lui.
Oui, et voilà.
La hiérarchie n'était pas vécue comme blessante. Elle était vécue comme un état de fait. Mais la musique, c'est pourquoi j'ai, pour ces musiques-là, dit ce que dit Jacques d'une autre façon. Moi, j'ai toujours aimé, c'est scandaleux encore, ce que je vais dire, mais c'est très matérialiste au sens philosophique du terme. J'aime beaucoup plus les musiciens que la musique. Mais je parle du jazz ou de ces musiques apparentées au jazz. La musique classique, je ne peux pas le dire, ça, parce que les interprètes, aussi prodigieux soient-ils, ne sont que des successeurs d'autres interprètes qui donnent une image de palimpseste à l'œuvre de Mozart ou de Bach ou de qui vous voulez. En jazz, non, chaque acteur musical est le jazz.
C'est une histoire de caractère, c'est un caractère qui ressort dans le jeu.
C'est le son, c'est le caractère, et c'est pour ça que la mort d'un musicien de jazz n'est pas une mort ordinaire, parce que ce n'est pas simplement une carrière qui s'interrompt, c'est une idée du jazz et un son du jazz qui ne le sont plus.
Je vais vous proposer, Francis Marmande, vous nous recevez, il faut le dire encore une fois, chez vous ce soir pour cette causerie improvisée autour de l'improvisation. Je vais vous proposer qu'on passe de l'autre côté du salon, là où il y a les instruments. On parlait de contrebasse, on parlait de musique, on écoutait aussi. Et vous êtes là tous les deux pour improviser, c'est ça?
On va essayer.
Jacques Berrocal, Francis Marmande.
On va essayer, oui. Francis.
Tu veux un live? Je sais pas si le son fait.
Ton riff c'est quoi? C'est ça mon problème. Ton riff c'est pas que... Thank you.
Jacques Béroquel à la trompette, Francis Marmande à la contrebasse en improvisation. Chez vous, Francis Marmande, vous nous accueillez ce soir. Donc on en profite pour saluer les voisins à cette heure-ci. Parce que c'est dans votre salon là, que vous venez de jouer.
Ils aiment bien.
Ils aiment bien, ouais, vous, oui. Entendez bien avec
hier, on a croisé un dans l'ascenseur. J'ai présenté Jacques et il était impressionné. Ouais. Donc c'était bien pour tout le monde, narcissiquement. Et en face, j'ai deux petits voisins qui ont 8 ans et 10 ans, qui apprennent la guitare. Donc ils ont des professeurs sérieux. Et on joue ensemble, on fait un trio. Ouais. Et je leur apprends le free un peu. Ça leur plaît beaucoup.
Mais alors, quand on assiste comme ça à un moment d'improvisation, sur une grille, hein, on va parler de grille, bon, il y a une préparation, mais on se dit qu'il y a effectivement l'improvisation, il y a deux moments. C'est-à-dire que le moment où ça se passe, il y a le moment de la performance, et puis le moment de l'écoute sur disque, par exemple, en tout cas sur un support. Vous parliez tout à l'heure du disque que vous avez sorti de votre discothèque personnelle avec Charlie Mingus, Art Blackie. L'écouter une fois, deux fois, trois fois, il y a un moment musical qui s'installe, mais voir la performance de l'improvisation, est-ce que ce n'est pas là le moment? Enfin, l'improvisation avec un grand H.
Alors là, si je me déplace vers la position d'auditeur ou de critique est souvent devant l'improvisation, pas forcément avec du H, là, comme vous dites, hein, mais le spectacle, enfin non, la vision, le spectacle n'est pas bon, de la musique, c'est absolument fondamental. Ce qui est important dans cette musique, c'est-à-dire le jazz, les musiques afro-américaines et toutes les dérivées, évidemment, c'est que ce sont des musiques d'expression de l'instrument. Des musiques. Alors, si j'en parle en plus devant Jacques Béroquel, qui en scène est une sorte de performeur, en fait. Et quand je dis en scène, c'est abusif, parce que quand on faisait des répétitions en studio pour, par exemple, tel concert où La Nuit est au grand, l'album, ben je me souviens que de Jacques en débardeur clouté et en studio, vous voyez, il y a 8 mètres carrés. Et il se roulait par terre comme s'il y avait eu 200 000 personnes au Stade de France. Et avec Hubertus, l'autre bassiste, on le regardait, mais on se disait, c'est pas du tout qu'il fait le pitre, il est dedans, quoi. Il est dedans. Ça dégageait beaucoup de poussière en studio, les roulades. Mais l'improvisation, le geste, les mains, le buste, l'expression du visage... C'est allé si loin que fantasmatiquement, les musiciens, ou les mauvais musiciens, ou les apprentis musiciens, ou les petits musiciens, ont cru, en regardant, qu'ils étaient en train d'apprendre. Quoi. C'était très vrai des bassistes et des batteurs. Mais il y a une autre expérience pour moi. Là, je me permets de parler en tant que type qui joue de la musique et qui n'est pas musicien, mais j'ai vécu cette expérience étonnante qu'à côté d'un musicien qui joue mieux que moi, et pour moi, ce n'est pas difficile dans la mesure où je pense que tous jouent mieux que moi. Donc, il m'est arrivé de jouer avec Jacques Béroquel très souvent, Jacques Tolo, qui était d'une exigence folle à la batterie. C'était terrible, parfois d'ailleurs très réprobateur sur mon amateurisme, enfin. Mais quel amour! Et ou en jouant avec Bernard Lubat, ou en jouant avec Archie Shepp, car j'ai eu cette chance. J'ai découvert que je passais des traits que je ne savais pas passer. Le trait, c'est-à-dire le mouvement de la main gauche sur le manche, des sortes d'arpèges, de vélocité. Et je voyais mes doigts cavalcader.
Ils vous emportaient dans leur roue.
C'est
en fait
l'autre qui me faisait jouer ça. Puis après, je rentrais chez moi, à la cuisine, et je retrouvais ma misère, quoi. C'était, l'autre était parti, mais je pense que c'est ce qui se passe, je vais faire un peu de grandiloquence, dans l'étreinte, dans le rapport humain, dans l'amitié. Et c'est surtout ce qui s'est passé au plus haut niveau dans cette musique. Alors les idiots en font une musique de rivalité, de compétition, de concurrence phallique, toutes ces âneries que j'ai entendues encore... Puis maintenant, les gens se réfugient derrière ça parce qu'ils n'ont pas les moyens d'analyser ce qu'ils entendent, quoi. Mais c'est ce qui se passait entre Louis Armstrong et King Oliver, ou Johnny Dodds, ou ce qui se passait entre Miles et Coltrane, ce qui se passait entre... Voilà, c'est-à-dire au plus haut niveau, cette espèce de relance faisait que chacun faisait aussi ce qu'il ne savait pas faire sur l'autre.
Se dépasser ensemble. Et
se dépasser ensemble, oui. Alors vous me direz qu'un quatuor, l'Amadeus, ou les plus grands, ou le quatuor Ebène, peut-être que ça revient au même, hein, c'est-à-dire que personne ne peut rester à la traîne où certains sont transcendés par meilleurs que soi, je ne sais pas.
Mais là, il y a l'idée de partir ensemble et d'arriver ensemble. Enfin, c'est peut-être se faire des croche-pieds en cours de route, mais en tout cas, c'est quand même une manière d'être ensemble, d'improviser comme ça.
Alors, croche-pieds, moi, je ne sais pas, jamais vécu ça, mais...
Vous parliez de concurrence.
Que ça soit, oui, mais justement, je ne vis pas cette musique, ni quand je l'entends, de cette manière-là. Si, je l'ai vu faire, oui, il y a des mises à l'épreuve, oui, quelquefois. Oui.
Il faut quand même montrer ce qu'on sait faire aussi, par moment, non ?
Et il faut assurer, oui. On raconte de la génération du bebop qui a atteint un niveau scientifique et ludique extraordinaire. C'est Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Monk. Quand ils mettaient au point leur musique à 4 heures du matin, After House, dans un restaurant qui leur prêtait la salle, c'est extraordinaire. C'était l'élaboration collective d'un renversement du jazz. Et on raconte que. Ils sont allés très très loin dans la virtuosité, mais la virtuosité c'est vraiment l'imaginaire des crétins, c'est pas la question, quoi. Mais ils sont allés très loin dans l'accomplissement d'une forme, entre autres pour trier ceux qui pouvaient les suivre et ceux qui ne pouvaient pas. Alors ils voulaient sortir des formes, ils considéraient que Armstrong et Duke Ellington étaient arrivés au sommet, donc c'est pathétique de mais c'est la question que je me pose aujourd'hui, je ne sais pas combien de dizaines d'années après la mort de Coltrane, le 17 juillet 1967, c'est être saxophoniste ténor aujourd'hui. C'est un chagrin. Et d'ailleurs, les types, on les voit, les filles, de temps en temps, ils arrivent à rejoindre quelque chose qui ressemble vaguement à Coltrane. Mais c'est, voilà, la contrebasse, ça laisse plus libre, d'abord parce qu'on l'entend pas. Et ensuite, parce que c'est l'instrument européen qui est assez bien accepté. Et puis, c'est l'instrument qu'on peut jouer chez soi. À minuit, vous pouvez jouer de la contrebasse non amplifiée avec Bill Evans. J'ai une série d'albums. Alors, ça dépend de l'état d'esprit.
Vous jouez avec eux ?
Ah, je joue avec eux, oui.
Ouais.
Oui. Et là, je ne joue pratiquement jamais faux. Voilà, mais je ne fais pas des miracles. Sauf que je peux mettre un album à un niveau tout à fait recevable pour les voisins. Et je peux jouer la contrebasse fond dans la musique enregistrée.
Je suis dos à une grande bibliothèque, et votre bibliothèque, Francis Marmand. Vous avez écrit beaucoup, et notamment sur Georges Bataille. Et je voulais vous poser la question du lien que vous faites entre... justement une certaine forme d'avant-garde de l'écriture et puis le jazz. J'ai lu que vous disiez que l'improvisation, en particulier en jazz, était la forme la plus aboutie d'écriture automatique, que vous mettiez en parallèle avec justement les expériences des surréalistes.
Oui, j'ai probablement dit ça, oui. je le crois surtout. Dans le manifeste de 1924, la déclaration de Breton est très claire, hein, c'est accéder à une sorte d'immédiateté de la pensée, rejoindre cette immédiateté et suivre le fil de la pensée aussi avec la même vélocité, avec cette espèce d'enchaînement dont l'écriture n'est que le cadavre, ou comme l'enregistrement n'est que le cadavre de la musique. Enfin, ça, c'est Jean-Louis Chotant qui parle comme ça. Mais l'écriture automatique, on le sait, enfin, il me semble, est poétiquement un échec. C'est-à-dire que pour retrouver les mécanismes supposés de l'écriture automatique, ça induit un travail de réélaboration fantastique. J'ai vu récemment un film de Jean-Jacques Lebel sur la Beat Generation. Ils sont allés voir, là, Burroughs et Ginsberg, je crois, ensemble. Ils sont allés voir Céline, parce qu'ils avaient découvert Céline en 1945. j'ai une passion pour Céline qui me fait rire. Tout. Et je connais le problème, hein, vous inquiétez pas. Mais ils sont allés voir Céline en 1945 et ils étaient convaincus que Céline faisait ce que eux aspiraient à faire. Alors que Céline, il en rajoute évidemment des tonnes, mais il dit pour arriver aux 800 pages de Voyage au bout de la nuit, c'est 8000 pages sur lesquelles il faut travailler 10 ans. Et puis, il ne mégote pas sur le fait que c'est un énorme travail, qu'il n'est pas doué, que c'est une fatigue, etc. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que je crois que, sauf peut-être quelques jaculations poétiques particulièrement chanceuses et inspirées, je crois que l'écriture, c'est évidemment le mouvement contraire de cette espèce de souhait d'écriture spontanée, d'écriture automatique, et qu'en revanche, je pense qu'il y a des artistes qui ont touché ça dans leur pratique esthétique. Pollock, quand il a vraiment atteint ce qu'il voulait faire avec le dripping, par exemple, et les musiciens de jazz depuis le début. L'introduction à Western Blues le 27 juillet 1928 de Louis Armstrong, c'est quand même quelque chose qui laisse méduser un siècle après. C'est pas tout à fait. Pourquoi ? Parce que ce qui s'énonce dans l'instant est l'imprévisible même, mais ça n'est pas du tout le n'importe quoi. Au contraire, c'est une espèce de perfection de l'instant. Ou ce moment qui anticipe sur le moment qui n'est pas encore advenu. Alors ça a l'air comme ça, de le dire comme ça, on dirait du Derrida ou du Bonnefoy, seulement c'est la stricte vérité. Ouais. Enfin, la nouvelle de Cortázar qui évoque Charlie Parker en studio avec Miles Davis, c'est un jour où Parker est particulièrement... La nouvelle s'appelle « L'homme à l'affût ». Parker est raconté... Cortázar a bien connu Parker et Parker est présenté dans une journée âpre où il n'est pas en forme, il n'est pas bien, il n'a pas... Et il est en studio, il joue avec Miles qui est plus jeune que lui et il est en plein chorus. Cortázar a cette image, il dit, les techniciens étaient en train de s'agiter comme des babouins derrière leur aquarium. Et à un moment, Parker se débranche le bec du saxophone alto de la bouche, donne un grand coup de coude à Miles, a l'air effaré comme s'il sortait d'un film d'horreur. Et il dit, ça Miles, je l'ai joué demain. Et il répète cela de façon très, très bouleversée et terrorisé, il dit, ça Miles, je suis en train de le jouer demain. Alors, n'importe quel astrophysicien ou physicien de la mécanique quantique comprendrait évidemment la phrase tout de suite. Oui, il avait traversé je ne sais quel mur invisible, était passé dans je ne sais quelle dimension, qui est ce que moi j'ai toujours recherché, pas en pratiquant, hein, je peux vous le dire, encore que ça donne des états d'âme, mais des états de corps aussi. Mais dans ce qu'on appelle le jazz ou l'improvisation, oui. Ouais. Je me tourne constamment vers Jacques Bérocal qui vient de publier son bel album MDLV pour lui demander si c'est ça ou si je dis des bêtises.
Dans le jazz, ce qu'il y a, c'est que, quand on parlait de free jazz d'Ornette Coleman avec Eric Dolphy, Don Cherry, Freddie Hubbard, et les autres, Blackwell, Billy Higgins, Scott LaFaro et Charlie Haden. Ce qui se passe, c'est que ces gens se chevauchent. Bon, mais ils jouent ensemble. Mais ils jouent, non seulement ils jouent ensemble, bien entendu, il n'y a pas que dans free jazz que les gens jouent ensemble. Il n'y a pas que dans cette pièce-là. Mais c'est qu'en plus, dans cette pièce-là, comme dans d'autres, ah, c'est difficile à dire. Ils sont dedans, dans la musique, dans la chose faite, dans la chose en devenir, qui est en train de se produire là. Cette improvisation qui leur échappe, mais qu'ils construisent. Ils sont dedans. Or, le type qui n'est pas dedans, il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer. D'ailleurs, il s'écarte de lui-même. Il ne peut pas. Il arrête. Il arrête. Il ne peut pas jouer. Il ne peut pas suivre. C'est être dedans. Alors, on peut être dedans dans du bebop. On peut être dedans dans le New Orleans. On peut être dedans dans le free jazz. On peut être dedans, je ne sais pas quoi. Le truc, c'est d'être dedans. Et ce n'est pas facile d'être dedans. Mais au moment où on est dedans, c'est fantastique. Et on peut, je crois, se permettre toutes les notes possibles, tous les accords ou désaccords possibles du moment que c'est dedans. Donc dès que c'est dedans, c'est juste, ça paraît bizarre. Même ce qui pourrait paraître faux, dissonant, est juste, parce que c'est dedans. Là où c'est pas juste, c'est quand c'est pas dedans. C'est difficile à expliquer, hein, parce que c'est presque de l'ordre de la magie, en vrai. Qu'est-ce que ça veut dire être dedans, être pas dedans, et être juste, histoire, être faux. Moi, je dis souvent par rapport à ce qui est faux, faux par rapport à quoi. Moi, je dis souvent autre chose. Je dis ça sonne ailleurs, mais tous les ailleurs sont pas bons. Mmh. Mais il y a des ailleurs qui sont franchement excellents.
Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous, Francis Marmande, pour cette émission, cette causerie improvisée autour de l'improvisation. Oui, et cet album MDLV, Jacques Berrocal, qui sort chez Sub Rosa après plusieurs années de gestation et les enregistrements nomades. Donc on ne peut que le conseiller. Et puis, Francis Marmande, il y a une anthologie chez Naïve que vous publiez.
Qui sort bientôt, là, oui, oui. C'est un travail dont je suis parfaitement incapable. Il est fait.
Il est fait, tant mieux, c'est le principal.
12 albums, ouais. Ouais. Avec une phrase qui m'est venue en préface. Je pense que même un crétin comme Jacques Séguéla aurait pu la trouver. C'est « Il n'y a pas tout, mais il n'y manque rien
». Et on salue Jacques Séguéla. Merci beaucoup.
Merci pour votre visite. Vous revenez tous les vendredis soirs.
Bah, volontiers. Oui,
oui, parce qu'on a des choses à dire.
À la semaine prochaine. Et c'est sur un thème de Thelonious Monk, This is my story, this is my song, que se termine cette conversation avec Francis Marmande, en présence de Jacques Berrocal. Ils reprennent là tous les deux ce thème, Berrocal à la trompette, Marmande à la contrebasse, comme tout à l'heure. En début d'émission, on a ouvert avec Automne perdu, qu'on trouve sur le disque La nuit est au courant. Et dans l'ordre, les autres improvisations de Francis Marmande et Jacques Berrocal étaient bâties sur des thèmes de Miles Davis, Spain, de Jacques Berrocal, Opportunity, et de Sonny Murray, Elephant Dreams. Pour aller plus loin, réécouter, commenter, podcaster, rendez-vous sur franceculture.fr. L'atelier du son est préparé et coordonné par Inès De Bruyne et réalisé par Véronique Lamandour. Au son ce soir, il y avait Nicolas Mathias et Philippe Bredin. Dans un instant, vous retrouvez Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture et à vendredi prochain.
Merci Thomas, bonne suite de nuit à vous. Voilà ce que vous pourrez entendre dans les ateliers de la nuit la semaine qui suit. Mardi soir, l'atelier fiction est en partenariat avec le festival de courts-métrages Paris Courdevent, qui fête ses 10 ans et se tient cette année du 24 au 30 novembre. Une mise en voie de deux courts-métrages, Baby Rush de Tigran Rosine et Romantique de Yann Corridian. Mercredi soir, le téléphérique par Johanna Bedeau. On partira de 1000 mètres pour arriver à 3842 mètres, avec deux hommes, deux alpinistes, partant à l'assaut du Mont Blanc. Vous suivrez les sons des crampons dans la neige jusqu'à les voir disparaître complètement. Jeudi soir, balade en typographie. Christian Rosset explore l'univers des créateurs en typographie et leur rapport intime avec la lettre et les mots. La mise en page de signes qu'ils inventent ou transforment. En quoi ce travail est-il un art et pas seulement un artisanat? Enfin, vendredi soir, dans son atelier du son, Thomas Baumgartner laisse la place à Patrick Bouvet pour une performance à partir de son texte « Carte son ». Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, nous serons en direct de 23h jusqu'à minuit. N'oubliez pas que les ateliers de la nuit sont à podcaster, atelier fiction, atelier création, atelier du son, tout est sur le site internet de France Culture. Il sera bientôt minuit et dans quelques instants, vous ferez l'éloge du savoir avec Christine Goémet.